Vous écoutez France Culture.
Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Place de la Toile, le magazine hebdomadaire des cultures numériques. Nous sommes ensemble jusqu'à 19h. Au sommaire de l'émission ce soir, plongé dans son ordinateur, Thibaut Henton répondra à la question « Pourquoi notre cœur est-il en train de saigner ?» Thibaut, que l'on retrouvera à la fin de l'émission pour son complément d'enquête, le son ce sera « Les ordres du docteur ». Quant à notre invité du jour, Nicolas Ayache, nouveau titulaire de la chaire informatique et sciences numériques du Collège de France, pour nous parler imagerie médicale computationnelle et patients numériques. Bonjour Nicolas Ayache.
Bonjour.
Vous êtes donc le nouveau titulaire de la chaire informatique et sciences numériques du Collège de France. Bravo.
Merci.
Vous êtes content ?
Très content, bien sûr.
C'est vrai que vous pouvez difficilement dire l'inverse. Vous avez prononcé avant-hier votre leçon inaugurale, jeudi soir. Nous avons la chance de vous recevoir dans Place de la Toile dès aujourd'hui, comme nous l'avons fait avec vos prédécesseurs, Bernard Chazelle et ses algorithmes, Serge Habitboul et ses bases de données, Gérard Berry et son monde numérique. Comme à chaque fois, donc, c'est non seulement pour nous l'occasion de découvrir quelqu'un, vous avez une trajectoire, des idées, des expériences, mais aussi souvent une discipline. Et aujourd'hui, ce sera l'imagerie médicale computationnelle, donc pour le dire grossièrement, mais on va y revenir, c'est en gros l'informatique appliquée à l'imagerie médicale, où nous allons comprendre comment les machines permettent de rendre le corps presque transparent, comment elles peuvent modéliser un corps, comment elles peuvent aider au diagnostic, à l'opération chirurgicale, mais aussi prédire l'évolution d'une pathologie ou même les effets d'un traitement. Tout cela, évidemment, n'est pas sans poser des problèmes à l'informatique, car tout n'est pas si simple du point de vue technique et algorithmique, mais aussi à la médecine, parce que le rapport au corps, j'imagine, en échangeur. Bienvenue dans Place de la Toile, Nicolas Ayache. Alors avant qu'on commence, juste quelques éléments comme ça biographiques, mais on va revenir un peu plus en détail. Vous êtes ingénieur des mines, vous avez fait un master d'intelligence artificielle à UCLA, donc l'Université de Californie de Los Angeles. Vous êtes directeur de recherche à l'INRIA, à Sophia Antipolis.
Oui.
En ce moment, vous êtes titulaire donc, de la chaire informatique et sciences numériques du Collège de France. Alors je passe sur les lieux, tous les lieux où vous avez enseigné, sur les multiples récompenses dont vous avez été honoré. Vous faites partie des chercheurs, c'est le cas de cette chaire INRIA Collège de France, des très reconnus dans leur champ, mais dont le grand public ne connaît pas forcément très bien ce qu'ils font, et je me compte dans le grand public. Donc on va remédier à ça. Alors je vous propose qu'on parte du début, Nicolas Ayache. Donc je disais que vous étiez ingénieur des mines, c'était évident pour vous de faire des sciences ?
Eh bien, j'avais beaucoup hésité, en fait. Je me souviens, lorsque, avec mon bac en poche, là, j'hésitais beaucoup entre, justement, plutôt sciences ou plutôt médecine. Et puis finalement, ce qui me faisait un peu peur pour la médecine, c'était le fait que j'avais l'impression qu'il fallait apprendre beaucoup de choses par cœur. Mmh. Alors que j'avais l'impression que du côté science, on apprenait un minimum et puis après, par déduction, on utilisait plutôt le raisonnement.
Et ça veut dire que vous étiez paresseux ou doué ?
Peut-être un peu des deux, en fait. Ouais. Et puis, je me suis orienté vers les sciences.
Vous étiez bon, vous aimiez ça, vous aviez, je ne sais pas, un rapport, un goût à faire des maths ou faire des expériences, enfin, ou alors pas tellement.
Oui, j'aimais bien les maths, j'aimais bien tout ce qui était scientifique. Et puis, je crois que finalement, lorsque j'ai choisi de m'orienter vers Mathsup, Mathspé, puis école d'ingénieur, ça correspondait assez bien à ce que j'aimais faire.
Ça, vous l'avez tout de suite senti ?
Oui, ouais. Oui, oui.
C'est familial, les sciences ?
Pas particulièrement. Bon, ma mère est institutrice à la retraite, donc il y avait un côté quand même éducation. Mais sinon, non, ce n'est pas particulièrement familial.
Et le choix de la recherche par rapport au choix ? Parce que quand on sort de l'école des mines, on peut aller dans des secteurs beaucoup plus professionnels, applicatifs. Le choix de la recherche, ça correspond à quoi chez vous ?
Ben là aussi, je crois que en fait, c'est vers la fin de l'enfance. Je ne sais pas, j'ai un peu idéalisé le métier de chercheur. C'est quelque chose qui me faisait un peu rêver. Et puis, à la fin de l'école des mines, j'ai eu envie d'approfondir un petit peu. Donc, ça a commencé par le master à Los Angeles qui m'a fait découvrir l'intelligence artificielle. Là-bas, j'ai eu la chance d'avoir un grand professeur qui s'appelle Judea Pearl et qui, il y a quelques années, a eu le prix Turing d'informatique. Oui. Voilà, donc,
pour un travail sur l'intelligence artificielle.
Oui, oui, oui. Et puis ensuite, quand j'étais aux États-Unis, j'ai eu envie de faire un PhD. Et puis les sujets qu'on me proposait là-bas, je les ai comparés avec ce qu'on me proposait en France. Et puis il y a un sujet que me proposait un jeune chercheur à l'INRIA, qui s'appelle Olivier Faugeras, qui m'a attiré. Et donc je suis rentré en France pour ça.
Et là, c'était pour travailler sur la vision artificielle des robots ou pas ?
Exactement, exactement.
Qu'est-ce que c'est la vision artificielle des robots ?
Eh bien, l'idée, c'est de donner le sens de la vue à des machines. Et donc, à l'époque, notamment les robots pour l'automatisation des chaînes, ils étaient très bêtes. Et donc, on essayait de développer des outils pour les rendre moins bêtes, notamment leur donner la capacité de voir où étaient les pièces qu'ils devaient assembler.
Mais c'est compliqué, ça, du point de vue informatique, de donner la vision, la vue à
un
robot ?
Oui, c'est compliqué. Surtout que là, dans le sujet de thèse, il fallait reconnaître des objets partiellement visibles. Et donc, il fallait
qu'on ne voit qu'en partie. C'est
voilà,
d'accord.
Exactement. Okay. Et éventuellement en trois dimensions. Donc, il y avait des outils également, des capteurs laser qui permettaient de reconstruire des formes en trois dimensions. Et c'était passionnant.
Ça, c'est le début des années 80, UCLA, puis l'INRIA sur l'intelligence artificielle, les robots. C'est un moment, début des années 80, dans un moment où on croit encore à l'intelligence artificielle. On y croit à nouveau maintenant. Déjà, il y a tout un temps pendant lequel on s'est dit que ce n'était pas à la hauteur de ce qu'on imaginait. Vous vous souvenez, vous, avoir été dans cette espèce d'enthousiasme de l'idée que, voilà, avec les ordinateurs grossissant, enfin les capacités de calcul des ordinateurs grossissant, on allait pouvoir vraiment créer l'intelligence artificielle. Il y avait un rêve un peu de SF là-dedans, ça fonctionnait comme ça, UCLA, à l'INRIA à l'époque.
Oui et non, c'est-à-dire je crois qu'il y avait d'un côté une sorte de un certain nombre de personnes qui étaient un peu aveuglées par le fait qu'on allait pouvoir tout faire, et puis je crois que des gens qui gardaient un peu les pieds sur terre.
Vous faisiez partie de cela,
vous ? Ça prendrait du temps. Rétrospectivement, c'est toujours facile de dire qu'on fait partie de la bonne catégorie. Je crois que j'étais un peu entre les deux, mais je me souviens en tout cas d'un exposé à UCLA où on montrait les prévisions d'augmentation des performances des ordinateurs. Et je crois qu'on annonçait, mais vraiment comme un futur incroyable, les 100 millions d'opérations par seconde. Quoi. C'était vraiment le futur pour dans très longtemps.
Et alors, on en est aujourd'hui à combien ?
On en est à beaucoup plus.
Ah ouais.
Je ne veux pas dire de bêtises, mais oui.
Comme si, en fait, on imaginait que les ordinateurs, enfin les robots pourraient faire des choses peut-être plus incroyables que ce qu'ils font aujourd'hui. Mais en revanche, en termes de puissance de calcul, on est en deçà de ce à quoi on arrive aujourd'hui. Enfin, les prévisions de l'époque sont en deçà de ce à quoi on arrive aujourd'hui.
Ah oui, bien en deçà. Oui, oui. On n'osait pas prolonger les courbes, il n'y avait que des pointillés. Et puis finalement... Ah ouais. Cette loi de mort, elle a vraiment fait changer les choses.
Et juste pour avant de là, dans votre récit, vous êtes déjà à l'INRIA, mais avant, il y a UCLA. C'était quoi l'ambiance sur le campus de UCLA au début des années 80 ?
Ah bah, c'était une ambiance très sympathique de campus en Californie, près de Santa Monica, Westwood. C'était très...
Il y avait déjà des gens, les gens qui travaillaient donc en informatique ou en sciences computationnelles, ils étaient déjà sur l'équivalent, enfin l'ancêtre d'Internet à l'époque. Vous en avez entendu parler là ou pas du tout ?
Non.
Ah, pas du tout, d'accord.
Non, c'était trop tôt.
Et alors, quand est-ce que vous êtes passé à la question de... vous avez basculé vers ce qui est l'imagerie médicale ? Comment ça s'est fait ?
Eh bien, ça s'est fait après ma thèse d'État, parce qu'à l'époque, on passait encore des thèses d'État. J'ai dû passer une des dernières en 88. Mon équipe, en fait, enfin l'équipe de mon directeur de thèse qui a déménagé à Sophia Antipolis. Et moi, pour des raisons personnelles, je souhaitais rester en région parisienne, à Roquencourt à l'époque. Et finalement, je me suis rappelé de cette idée de la médecine, en fait, qui m'attirait toujours un peu. Et je me suis rendu compte que le traitement d'images pouvait avoir des applications très importantes dans ce domaine, en fait.
Et c'est-à-dire que vous avez transféré ce que vous aviez travaillé avec les robots, vous l'avez transféré du côté médical ou alors c'était très séparé des...
Oui, oui, il y avait des liens, c'est-à-dire il y avait cette idée d'extraire des images, des informations, là non plus pour guider des robots, mais finalement pour guider l'interprétation, l'analyse. Et même finalement, on se rend compte aujourd'hui, les robots médicaux. Donc il y avait un passage assez naturel finalement.
C'était quoi, Nicolas Ayache, le champ de l'imagerie médicale computationnelle en... C'est quoi, là, on est en quoi,
88, 89, ouais, voilà,
fin des années 80.
C'est le moment où je crée, avec des collaborateurs, l'équipe de recherche Epidor. Et à cette époque, ben, les images médicales, elles sont essentiellement analysées sur des coupes de dés. Et on fait le pari que finalement, on va bientôt avoir des images qui sont vraiment volumiques, qui sont vraiment 3D, et qu'on peut commencer à préparer des outils de traitement d'images volumiques, voire même, à l'époque ça semblait vraiment futuriste, voire même avec plus de dimensions, 4 dimensions par exemple.
La quatrième, c'est le temps ?
C'est le temps, la dimension temporelle. Et donc, on a commencé à aller dans les hôpitaux, à demander des images de haute résolution, à demander des images qui avaient aussi donc cette dimension temporelle, et commencer à réfléchir un peu aux outils de traitement de ces images volumiques ou quadridimensionnelles.
Et quelles compétences vous avez mobilisées à l'époque ? Je ne parle pas simplement des vôtres, hein, mais autour de vous, pour réfléchir à ça de manière très abstraite au début, puisque vous le dites vous-même, c'est-à-dire que vous avez été chercher des images en disant, bon, voilà, en imaginant quelque chose qui n'était pas du tout possible encore. Quelles compétences vous avez mobilisées alors, autour de vous, dans votre équipe, et puis aussi, quel rapport avec le monde médical, à part aller leur piquer leurs images?
Oui, alors effectivement, c'est bon, du côté donc, technique, il y a des compétences du côté de certaines formes de mathématiques, de statistiques, de géométrie. Ça fait appel beaucoup à la géométrie différentielle, par exemple. Et puis, le dialogue avec les médecins, ben, ça a été finalement une sorte d'échange, essayer de comprendre quels étaient les problèmes auxquels étaient vraiment confrontés les médecins, pour pas essayer de résoudre des problèmes inutiles. Et également essayer de faire comprendre ce qu'on voulait faire. Donc il y a...
C'est un aller-retour.
C'est un aller-retour, oui. Il y a un de mes collègues, d'ailleurs, qui a utilisé l'image du film Lost in Translation récemment pour montrer que bah, parfois, c'est vrai que quand on va dans d'autres communautés, on a l'impression d'être un peu dans un pays étranger. Donc, il faut faire un effort des deux côtés pour réussir à se comprendre.
Mais justement, les médecins, quand vous êtes venus leur dire, voilà, avec vos images 2D, là, on pourrait imaginer faire des images 3D, 4D, ils vous ont accueilli comment ?
Eh bien, il y a eu des réactions chez certains, c'était vraiment un gadget, c'était totalement inutile. Et puis, il y en a d'autres qui étaient vraiment visionnaires et qui pensaient que c'était vraiment l'avenir. J'ai rencontré à une époque, je crois vers 95 par exemple, le professeur Maresco à Strasbourg. Et lui, il était déjà dans la vision qu'on allait utiliser beaucoup l'informatique, beaucoup l'imagerie et les robots dans la pratique chirurgicale. En
fait. Et c'est quoi, alors, quand on est, voilà, on est au tout début, là, après on va revenir en détail sur comment ça fonctionne, dans quelle direction vous êtes allé, etc. Mais c'est quoi les principaux problèmes informatiques que ça pose à une équipe, ça ? C'est-à-dire, voilà, on veut passer de 2D à 3D, voire 4D. C'est quoi les problèmes informatiques ?
Alors, les problèmes informatiques, eh bien, c'est des problèmes, il faut inventer de nouveaux algorithmes, en fait. Et pour inventer ces algorithmes qui vont triturer, finalement, ces images 3D ou 4D, il faut comprendre d'abord que les images médicales, elles décrivent le corps humain avec des petits éléments de volume, qu'on appelle des voxels. Et ces petits éléments de volume, donc voxel, ça veut dire volume element, dans l'image d'une tête, par exemple, ou d'un corps entier, il peut y en avoir jusqu'à des centaines de millions. Et donc, il faut définir des algorithmes qui vont se promener dans ces centaines de millions de voxels pour extraire une information qui est cliniquement pertinente, qui a un sens pour le médecin. Et pour faire ça bien, eh bien, généralement, on s'appuie sur des modèles. Alors, j'ai cité les mathématiques. Mais il y a aussi de plus en plus la biologie qui est mise à contribution, la physique également, comment on a acquis les images, la physique d'acquisition des images, et puis également la physique et la chimie du fonctionnement du corps humain. Ça permet de comprendre ce qu'il y a dans les voxels et de faire des algorithmes, eh bien, qui vont avoir également un sens.
Il faut tout ça pour recomposer juste des images. Alors, pour fabriquer des images, c'est ça qui est...
Alors, c'est d'une part, pour les fabriquer, il faut de l'informatique. Mais là, je parlais de la partie analyse.
D'accord.
Mais c'est vrai que vous faites bien de le souligner, l'informatique, elle est déjà présente dans la fabrication même des images. Alors c'est ce que j'ai montré là, lors de ma leçon inaugurale, par exemple pour les images de microscopie in vivo. Une invention absolument extraordinaire d'une entreprise française qui s'appelle Monakea Technologies, qui est dirigée par Sacha Loiseau, et qui a inventé une technologie qui permet d'introduire un microscope à l'intérieur du corps humain. Alors, ça se fait avec un faisceau de fibres optiques qu'on introduit dans le canal d'un endoscope. Et dès que cette fibre optique est au contact des tissus, eh bien on voit avec une résolution du micron nos propres cellules en fonctionnement.
Et en vie, c'est
un. Et alors, j'ai montré comment l'informatique, finalement, joue un rôle déjà dans la fabrication des images, parce que le signal qui arrive de ces fibres optiques,
il faut en faire quelque chose.
Et puis ensuite, comment même on peut faire des traitements supplémentaires qui, par exemple, permettent d'élargir le champ de vue en créant des mosaïques immenses avec des milliers d'images qu'on colle ensemble. Et on fait des sortes de panoramas, de panoramiques, là, comme avec notre iPhone, sauf que c'est un tout petit peu plus compliqué. Et puis ensuite, j'ai montré aussi comment l'informatique permettait de faire ce qu'on appelle l'atlas intelligent.
On va y revenir à l'atlas intelligent. Mais juste, en vous écoutant là, parler de ce microscope in vivo, je me disais, mais qu'on est loin et en même temps dans le prolongement du rêve de ce tableau que vous avez évoqué au tout début de votre leçon inaugurale au Collège de France, qui est le tableau de Rembrandt, le fameux tableau de Rembrandt, qui est la leçon d'anatomie du docteur Tulpe,
on ne
sait pas très bien. Un tableau de 1632. Est-ce que vous avez l'impression de vous. On voit donc un médecin comme ça qui prend une main et un bras pratiquement. Qui montre. Hein. Est-ce qu'on est dans le prolongement d'une très 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 vieille idée qui rend un corps transparent?
Alors effectivement, ce que montre ce tableau, c'est en fait la dissection d'un bras entier. Et ce tableau, il révèle un mystère, en fait, qui est le mystère par lequel on arrive à animer les doigts de la main par des muscles qui ne sont ni sur les doigts ni dans la main, mais qui sont en fait très loin sur l'avant-bras. Et en fait, pour le comprendre, il faut projeter un modèle. Et c'est un modèle qui est à la fois géométrique et biophysique et qui explique que si on contracte des muscles sur l'avant-bras et qu'on tire sur des ligaments qui passent par des articulations, etc., on va animer les phalanges qui sont au bout des doigts. Et finalement, ce principe, qui d'une certaine manière était déjà énoncé par Claude Bernard, eh bien ce principe, c'est aussi celui qu'on applique en imagerie médicale computationnelle. Donc lorsqu'on a des voxels qui arrivent d'une image médicale, il faut projeter des modèles dessus pour expliquer à la fois l'anatomie, la forme des organes, et la physiologie, c'est-à-dire leur fonction.
C'est-à-dire qu'on est toujours dans l'idée de fabriquer des modèles.
On est obligé.
De concevoir.
Il faut concevoir ces modèles. Et alors, une fois qu'on les a ajustés à des images médicales, ils permettent de mieux comprendre ce qu'il y avait dans les images. Par exemple, si on ajuste un modèle computationnel du cœur, j'ai beaucoup parlé du cœur sur des images cardiaques, eh bien, on va pouvoir utiliser les paramètres du modèle qu'on a ajusté aux images pour mieux comprendre la fonction cardiaque. Par exemple, la fraction d'éjection, qui est un paramètre important du fonctionnement du cœur. Et puis également, une fois qu'on a ce modèle, une fois qu'on l'a ajusté aux images du patient, on peut l'utiliser pour prédire une évolution.
On va en parler tout à l'heure. Mais c'est important de comprendre le principe global avec cette idée de modélisation, de recomposition d'images. Bon, on va discuter de tout ça très précisément, Nicolas Ayache, mais tout de suite, Thibaut Henton, qui s'est plongé cette semaine dans son ordinateur pour répondre à la question « Pourquoi notre cœur ?» Vous voyez, on continue à parler de cœur. « Pourquoi notre cœur est-il en train de saigner ?»
Notre cœur est-il en train de saigner ? Eh bien, pour des raisons que la décence m'oblige à taire ici. Parce que le discours de politique générale de notre nouveau Premier ministre m'a rappelé les plus belles heures du socialisme, et parce que ce n'est pas sans lien, Alain Finkielkraut est immortel. Voilà pour mon cœur. Quant au nôtre, notre cœur, c'est-à-dire le cœur du réseau, eh bien, Si le cœur du réseau saigne, attention, je m'accroche, c'est parce qu'un bug, une erreur de programmation de la part d'un développeur allemand dans une nouvelle fonctionnalité d'un protocole massivement utilisé pour chiffrer les communications des serveurs, oui parce que c'est à ce niveau que ça se passe, hein, celui de la couche transport hors de ma portée à moi, simple internaute, et pourtant sont aussi contenus là mes informations, identifiants, mots de passe dont j'ai besoin pour accéder à Google & Co. Si le cœur du réseau saigne, je reprends, c'est donc parce qu'un bug dans un protocole de chiffrement a créé une énorme faille de sécurité, transformant les serveurs web en véritable passoire. Premier effet, des serveurs dont il devenait possible de lire la mémoire comme dans un livre ouvert à une page au hasard. Deuxième effet, des sites au certificat d'authentification compromis. Moi, quand je voyais une adresse web commencer par HTTPS au lieu de HTTP, j'étais rassuré, ça avait un effet magique. Eh bien, même ça, c'était faux. Bref, le cauchemar. Nom de la nouvelle fonctionnalité boguée, Heartbeat, cœur qui bat. D'où le nom donné à la faille, Heartbleed, cœur qui saigne. Pour qu'un cœur saigne, il faut d'abord qu'il batte, je retiens au moins ça. Il faut reconnaître que ce nom, Heartbleed, parle au cœur. La faille, révélée cette semaine, mais qui existe depuis 2 ans, ce qui rajoute à l'inquiétude, car il est tout à fait probable qu'elle ait été exploitée entre-temps et pas seulement par les services, a donc un nom, un logo, son site web, tous créés pour l'occasion par une entreprise spécialisée en sécurité informatique du nom de Codenomicon. Du marketing très utile pour mobiliser la communauté open source afin de combler la faille de sécurité, corriger le bug, le patcher comme on dit. D'autres préfèrent insister sur la faiblesse des procédures de vérification dans la communauté. Comment un bug d'une telle gravité a-t-il pu échapper à la vigilance des développeurs? Cela remet-il en cause la manière dont les standards sont conçus au niveau international? Ne faudrait-il pas les repasser dans le giron d'une instance gouvernementale? Bon, si Snowden nous a rendus méfiants, Heartbleed, c'est un coup de poignard au cœur de l'architecture de l'Internet. Sur une échelle de 1 à 10, Heartbleed est noté 11. Ce n'est pas de moi, mais de Bruce Schneier qui fait office de référent suprême en matière de cybersécurité. Heartbleed touchant à OpenSSL, mis en œuvre par plus de la moitié, 66% je lis du web, ses effets sont encore loin d'être tous connus. Bon, je vous rassure, avant de vous précipiter pour changer vos mots de passe, c'est d'abord aux administrateurs des serveurs de corriger la faille. La bonne nouvelle, c'est aussi que si votre administrateur utilisait une vieille version d'OpenSSL, il n'a sans doute pas été touché par Heartbleed. Comme quoi, la lenteur a ses vertus et l'obsolescence est parfois la meilleure des sécurités.
Hi honey, it's me. I went to see the doctor today. Cause ever since you've been gone, I had a pain deep down inside. He says there's nothing really wrong with me. I'm just missing my man. So honey, please, come on home as soon as you can.
Doctor's orders say there's only one thing for me. Nothing he can do, cause only...
Merci Thibault, on vous retrouve en toute fin d'émission pour votre complément d'enquête. On écoute un grand classique de la disco qui a pour vertu que d'avoir un rapport très lointain avec notre sujet, si ce n'est évidemment que ça parle de docteur, c'est Doctor's Orders, Carol Douglas, qui date de 1974. Vous écoutez France Culture, Place de la Toile, le magazine des cultures numériques où nous recevons ce soir Nicolas Ayache, nouveau titulaire de la chaire informatique et sciences numériques du Collège de France. Nicolas Ayache, votre champ de recherche, on a commencé à en parler, c'est l'imagerie médicale computationnelle. Alors juste, j'ai une question vraiment toute bête. Vous nous avez parlé de Voxel qui est donc l'espèce d'unité de base de cette imagerie. Bon, mais... question bêtasse, vous allez trouver, mais est-ce que ce voxel, il est le même ou est-ce qu'il provient de tous les types de recueils d'images qu'on connaît. C'est-à-dire, en gros, je sais pas, on connaît à peu près 5, c'est ça ? C'est radiographie, scanner, oui. IRM, échographie et scintigraphie.
Oui, il y a beaucoup de modalités d'imagerie. Là, vous citez les plus connues. Et ouais. Déjà, dans ces images, si on regarde par exemple les 4 modalités d'imagerie volumique les plus utilisées, on a des informations très différentes contenues dans les voxels. Par exemple, sur le scanner, on va mesurer une fonction qui est liée au rayon X, à la densité d'absorption des rayons X.
D'accord.
Donc on va très bien voir par exemple les os par rapport au tissu mou, mais on ne va pas bien révéler dans le cerveau les différentes structures. Alors qu'avec l'IRM, qui mesure une fonction qui est liée à la structure des protons qu'il y a dans les molécules d'eau de notre corps, on va révéler le contraste entre la matière blanche et la matière grise dans le cerveau. Donc des choses déjà beaucoup plus subtiles. L'échographie, ça va mesurer des choses liées à la vitesse de propagation du son dans les tissus. Et puis les scintigraphies, c'est l'imagerie de médecine nucléaire. Par exemple, une machine qui est très connue, c'est le PET, tomographie par émission de positons en français. Là, on va mesurer un traceur radioactif qu'on injecte dans le patient. Donc, une modalité comme la dernière, là, le TEP, on va mesurer quelque chose qui est lié au métabolisme, au fonctionnement du corps. Alors que les autres modalités, c'est plutôt anatomique.
Mais est-ce que pour vous, c'est la même chose ? C'est-à-dire qu'à partir du moment où c'est recueilli, pour vous, la question du traitement et de la modélisation par rapport à de ces voxels, est-ce que c'est la même chose ou ça vous demande des travaux très différents algorithmiquement quand vous essayez de recueillir des voxels qui proviennent du scanner ou de l'IRM ou,
Non, alors c'est ça qui est absolument remarquable dans l'imagerie médicale computationnelle, c'est que certains algorithmes sont totalement transverses, c'est-à-dire ça fonctionne pour toutes les modalités d'imagerie et puis également pour différentes disciplines, pour de la cardiologie ou de l'oncologie ou d'autres disciplines médicales. Donc il y a ce côté transverse finalement de l'informatique à travers les modalités d'imagerie et les spécialités médicales. Mais en même temps, il faut bien comprendre ce qu'il y a dans chaque modalité d'imagerie pour parfois faire quand même des applications qui vont être spécifiques à un domaine ou à une modalité.
Alors ces applications, quelles sont-elles ? Votre but, c'est de fournir quoi ou quelle utilité au médecin qui va regarder ces images et s'en servir ?
Alors par exemple, puisqu'on parlait de plusieurs modalités, un outil qui a été développé de façon assez précoce, c'est un outil qui permet de combiner, de fusionner les images ensemble. Donc on a des images à la fois plutôt anatomiques, d'autres qui sont plutôt fonctionnelles. Et si on a fait passer au patient un examen de chaque, on a envie de les remettre dans un même référentiel.
Donc par exemple, ça peut être quoi ? Pour quel organe ou quelle fonction ou quel,
Par exemple, pour le cerveau, si on veut mélanger des informations fonctionnelles et anatomiques. Donc là, c'est des outils de recalage d'images. Ces outils de recalage, on les retrouve aussi en chirurgie pour faire de la réalité augmentée. Alors la réalité augmentée,
c'est quoi
Ça, c'est quelque chose d'assez extraordinaire qui permet de rendre le patient virtuellement transparent. On superpose sur les images du patient pendant l'intervention des images qu'on a prises avant, qu'on appelle préopératoires. Et on les superpose exactement dans une position telle qu'on a l'impression de voir en transparence les organes du patient, éventuellement la tumeur qu'on veut cibler avec une aiguille, par exemple, pour venir la détruire. Et puis les vaisseaux qu'on ne veut surtout pas traverser. Et donc, on donne des informations comme ça en réalité augmentée grâce à du recalage d'image.
Mais qu'est-ce qu'il en fait, le médecin, du corps, de l'image du corps en transparence du patient qu'il est en train d'opérer ?
Eh bien, il va utiliser ces informations un peu comme un GPS, comme une carte routière. J'ai pris l'image de la carte routière qu'on projette sur une image aérienne pour mieux l'interpréter, pour savoir où on est, pour exactement se repérer, éviter les zones dangereuses. J'ai montré, par exemple, à la Pitié-Salpêtrière, on fait, par exemple, pour des patients parkinsoniens, on vient faire de la stimulation profonde avec des aiguilles au centre du cerveau. Et on va projeter sur les images du patient ce type d'atlas de l'anatomie des noyaux gris centraux pour bien se repérer, savoir exactement
Alors,
où on va ?
Vous avez prononcé, ça fait deux fois que vous prononcez le mot d'atlas. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un atlas ? C'est quoi l'expression exacte que vous employez ? C'est un atlas du patient, anatomique du patient.
Un atlas anatomique du patient.
Qu'est-ce que c'est qu'un atlas anatomique du patient ?
Alors là, il y a toute une histoire de la fabrication des atlas. L'idée, c'est de construire, au début, c'était de construire une représentation standard de l'anatomie. Et finalement, l'anatomie computationnelle, depuis une dizaine d'années, s'est rendu compte que, en utilisant un grand nombre d'images de patients, on pouvait construire des représentations statistiques de l'anatomie en fonction de différentes populations, et que ces représentations statistiques, on pouvait ensuite justement les projeter sur les images d'un individu particulier.
Mais quel intérêt,
pour guider l'interprétation. C'est pour guider l'interprétation.
C'est-à-dire, je le traduis vraiment grossièrement. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que vous comparez un individu, donc l'anatomie d'un individu, à l'anatomie normée, statistique, atlas. Mais alors, c'est pour montrer quoi ? C'est pour montrer des différences ? C'est pour montrer des...
Ça peut servir à révéler des différences qui, par exemple, correspondraient à une anomalie, à une pathologie. Ça peut aussi servir à guider l'interprétation. Et là, les exemples que j'avais pris, c'était pour guider l'interprétation. On est en face d'une image difficile à interpréter. Grâce à des outils de mise en correspondance, on superpose exactement un atlas dans lequel il y a l'information sémantique de ce qu'on regarde. Et du coup, il y a le nom des structures qui apparaissent et ça aide l'interprétation et le guidage.
Mais Nicolas Ayache, comment on construit une sorte de modélisation statistique d'un patient ? Vous dites en fonction de population. Donc ça veut dire qu'on a, je ne sais pas, la modélisation statistique, l'atlas d'un patient de masculin de 50 ans, d'une population plutôt aisée, et puis en face, je ne sais pas, d'une dame de 70 ans, d'une population pauvre. Enfin, qu'est-ce qu'on construit ?
Ben là, par exemple, j'ai montré des exemples où à partir de bases de données qui contiennent des centaines d'images IRM de la tête, on met en correspondance toutes ces images en s'appuyant sur des repères anatomiques qui sont des lignes qu'on a dans les sillons de notre cortex. Et en mettant toutes ces lignes en correspondance, eh bien, on arrive à faire une représentation moyenne de la surface du cortex, à mesurer sa variabilité. On voit qu'il y a des régions qui sont beaucoup plus variables que d'autres.
C'est intéressant, ça. Ouais.
Et on peut utiliser cette représentation moyenne et l'information de variabilité pour superposer justement cette information sémantique sur le cerveau de la dame ou du monsieur que vous indiquez.
Et est-ce qu'il y a des parties du corps ou des organes qui sont beaucoup plus difficiles à modéliser que d'autres, pour des raisons que j'ignore, mais...
Oui, alors, tout à l'heure, on parlait d'images microscopiques, et on parlait de l'atlas intelligent. On s'est rendu compte que dans le domaine de l'imagerie microscopique, ça n'avait pas vraiment de sens d'essayer de représenter une description moyenne de telle ou telle classe d'images microscopiques, et qu'il valait finalement mieux garder toute la base de données d'images interprétées par des experts, et lorsqu'une nouvelle image arrive et qu'il faut l'interpréter, utiliser une autre approche, une approche dans laquelle on recherche les images les plus similaires dans la base de données, et on les présente finalement aux praticiens en disant, voilà, ce sont les images les plus similaires, voilà comment elles avaient été interprétées par des experts, et voilà une information qui peut guider le diagnostic.
Parce que deux questions. La première, c'est que vous parlez depuis tout à l'heure de bases de données d'images. Mais elles proviennent d'où, ces images ?
Alors, les bases de données, on se rend compte que de plus en plus, sur la toile, on trouve des bases de données d'images principalement pour des études statistiques.
Par exemple, en accès libre, comme ça.
Sur Alzheimer, pour la maladie d'Alzheimer, aux États-Unis, il y a une immense base de données qui est constituée depuis plusieurs années où on suit des participants qui ont des IRM régulièrement avec leur diagnostic. Alors bien sûr, c'est seulement des équipes de recherche qui ont accès à ces bases de données et bien sûr, elles sont totalement anonymisées.
Elles sont payantes ou pas ?
Non, on doit simplement montrer que c'est pour des études liées à la recherche. En France, il y a une base de données aussi très importante qui est en cours de constitution là, pour Alzheimer à l'initiative du CEA et de la Pitié-Salpêtrière. Et ces bases de données, elles sont très importantes en fait, pour tester justement des algorithmes qui vont essayer d'aider l'interprétation de l'évolution du cerveau par exemple pour des patients qui ont la maladie d'Alzheimer. Et à quoi ça sert? Eh bien, ça sert à mesurer objectivement l'efficacité de nouveaux médicaments. Est-ce qu'un nouveau médicament ralentit l'atrophie du cerveau qu'on voit chez des patients Alzheimer ou pas?
Et je me posais une autre question. Quand il s'agit de mobiliser, par exemple, une des applications dont vous allez peut-être nous parler, c'est d'essayer de prédire l'efficacité d'un traitement.
Oui. Bon.
Mais est-ce qu'on peut prédire l'efficacité d'un traitement qu'à partir de données qui sont des données physiques, si j'ose dire? C'est-à-dire que, parce que dans l'efficacité d'un traitement, j'imagine qu'entre mille autres choses en compte, qui peuvent être l'état d'un patient, comment il est accompagné par sa famille ou pas, comment lui-même réagit, se positionne face à sa maladie, comment il se nourrit, comment il s'occupe de son corps. Et ça, il me semble que ce n'est pas modélisable. Alors du coup, pour des choses comme la modélisation prédictive, comment on fait pour pondérer tous ces autres paramètres qui me semblent tellement essentiels dans la réaction à un médicament, Nicolas Ayache?
Oui, vous avez tout à fait raison. En fait, il faut bien voir que ces outils de traitement d'image, d'analyse d'image, ils viennent en complément d'autres informations. Il y a des marqueurs biologiques, il y a des tests, par exemple, psychologiques, il y a tout un ensemble d'éléments qui viennent décrire l'histoire finalement singulière de la maladie de chaque patient. Et on se rend compte que de plus en plus, l'imagerie et l'imagerie médicale computationnelle, c'est-à-dire le mélange de l'informatique et de l'imagerie, viennent apporter des compléments d'informations importants pour connaître finalement la santé et l'évolution de la santé des patients.
Mais il n'y a pas le risque, je sais, bon, vous, ce n'est pas vraiment votre souci, mais comme c'est votre travail, j'imagine que vous posez la question, c'est que plus l'image est précise, plus elle permet de choses, c'est-à-dire que vous avez parlé, on peut imaginer, je ne sais pas, c'est quand même incroyable de pouvoir ajouter la quatrième dimension, qui est la dimension temporelle, donc d'évolution, donc à partir de ça, de pouvoir établir des modèles de prédiction, comme on vient de le dire. Alors évidemment, on sait très bien que ces modèles de prédiction d'évolution, j'imagine que les médecins n'y accordent pas un crédit forcément total, etc. Mais je veux dire, est-ce qu'il n'y a pas le risque, en donnant des images de plus en plus précises, qui ont de plus en plus d'informations, le médecin ait de tendance à désinvestir le reste de son savoir? Est-ce que c'est un risque? Ou est-ce que c'est une question que vous ne vous posez pas, parce que ce n'est pas votre souci, celui des médecins?
Non, je pense que chaque fois qu'on donne finalement aux médecins des outils plus puissants pour exercer, pour pratiquer finalement leur métier, ils en font un usage utile et intéressant finalement. Je ne pense pas qu'il y ait un désinvestissement. Je pense qu'il y a certains collègues qui utilisent le terme, en fait, transcender les capacités du médecin. Par exemple, quand on parle de robotique médicale, on se rend compte qu'avec la télémanipulation des robots, eh bien, on peut faire des gestes encore plus précis. On peut filtrer des tremblements, on peut faire des choses en plus. Donc, voilà.
On peut filtrer des tremblements,
par exemple.
D'accord. Ah oui, c'est très beau ça.
Démultiplier des mouvements aussi. On fait un grand mouvement alors qu'en fait, c'est un tout petit mouvement que fait le robot.
Et alors là, en ce moment, par exemple, c'est quoi un obstacle du moment? Parce que j'imagine que vous êtes toujours face à des obstacles.
Bien sûr. Ouais.
C'est quoi votre obstacle du moment, là, celui qui vous occupe, Nicolas Ayache?
Bien, là, on se rend compte que une grosse difficulté actuellement, on construit des modèles qui sont de plus en plus sophistiqués, de plus en plus complexes pour décrire l'anatomie et la fonction, la physiologie. Il y a de plus en plus de paramètres et finalement, on a des mesures qui viennent de l'imagerie, des signaux biologiques, etc. Et faire le lien entre les deux, identifier tous ces paramètres, c'est un problème qui est très difficile. Donc ça fait appel à des algorithmes et des méthodes, par exemple, de filtrage non linéaire. On appelle ça aussi l'assimilation de données, qui sont pour le moment les points un peu limitants.
C'est-à-dire que pour le traduire en langage non informatique, ça voudrait dire qu'aujourd'hui, vous êtes face à un afflux de données dont vous ne savez pas toujours exactement comment il faut les ordonner, les traiter, c'est ça?
D'un côté, beaucoup de données, de l'autre côté, beaucoup de paramètres.
Ah oui, c'est ça. Et la combinaison
et faire le lien entre les deux. Et ça, c'est des problèmes très compliqués, en fait.
Quel est votre rêve de chercheur, Nicolas Ayache? Dans votre leçon inaugurale, vous mentionnez ce film qui s'appelle L'Aventure Fantastique, c'est ça?
Le Voyage Fantastique.
1966, donc, qui est un film où des gens sont réduits et projetés dans le corps d'un patient et ont une heure pour aller détruire un caillot qui est dans un cerveau. C'est donc qu'ils doivent se diriger, échapper à plein... j'imagine que c'est pas ça, votre... Et quoique, Est-ce que c'est ça finalement? C'est pouvoir être dans une sorte de petite capsule minuscule et vous promener dans un corps pour aller détruire un caillou?
Oui, disons, j'avais pris cette image parce qu'elle correspondait assez bien au défi de la leçon inaugurale. Ah. Puisque la leçon inaugurale doit durer impérativement une heure, très précisément. Mmh. Et c'est exactement le temps qu'avait l'équipage pour faire cette mission à la fois exploratoire et thérapeutique du corps humain. Donc moi, j'ai dit que j'allais faire un voyage, j'allais proposer un voyage toute proportion gardée, qui serait un voyage scientifique à l'intérieur du corps humain. Et donc, de façon très prosaïque, je crois que mon rêve, c'est si certains des outils qu'on développe peuvent aller jusque... au chevet du patient et transformer donc ces outils en produits qui sont cliniquement utiles. C'est quelque chose de très bien.
Je reformulais. Alors, du coup, ce serait quoi l'outil que vous aimeriez pouvoir mettre à côté du patient ou dans la salle d'opération ou, je ne sais pas, sur le bureau du médecin ou...
Oui. Ce que j'ai indiqué, c'est que je pense que dans notre domaine de recherche, j'ai parlé d'un triangle vertueux. Et on se rend compte que ce qui est très important, c'est dans ce triangle, c'est les trois sommets. Alors, il y a, comme dans tout triangle, il y a trois sommets. Donc, il y a un des sommets, c'est une sorte de recherche académique pluridisciplinaire, on l'a évoqué, qui allie l'informatique, les sciences numériques avec d'autres sciences, mathématiques, biologie, physique, chimie, etc. Mais il y a un deuxième sommet qui est le partenariat clinique, avec les médecins, très important aussi pour résoudre des problèmes qui ont un sens clinique et puis pour les valider. Et enfin, un troisième sommet qui est le partenariat industriel. Et on se rend compte dans notre domaine que si on veut que les prototypes de recherche ils aillent au-delà d'une simple publication, eh bien, il faut ce partenariat pour ensuite que vraiment les logiciels soient réécrits avec beaucoup de rigueur et soient transformés en des produits qui sont validés, etc.
Donc ça veut dire qu'il faut que ça intéresse l'industrie. Il faut que ça intéresse à la fois les médecins, l'industrie. Et,
voilà.
Et comment ça se fait, cette espèce d'équilibre merveilleux? Est-ce que ça se fait, par exemple, sur des maladies qui touchent de plus en plus de gens, et donc, du coup, les médecins en ont besoin d'outils?
Oui.
Et par ailleurs, les industriels se disent qu'il y a un marché.
Absolument. Et ces industriels-là, c'est soit déjà des grands de l'imagerie, par exemple, qui sont déjà dans le domaine et qui sont intéressés, et c'est aussi des start-up qui sortent de laboratoire. Moi, j'ai la chance que de mon équipe, ils soient déjà sortis plusieurs de ces startups. Donc, c'est des chercheurs qui se lancent et puis qui croient dans un ensemble de logiciels. J'ai évoqué lors de la leçon inaugurale une startup issue de Stanford, par exemple, qui a inventé un logiciel qui permet de prédire la pression dans les coronaires, donc autour du cœur, qui sont mesurées donc par un scanner. Et cette pression, elle est mesurée avec beaucoup de précision avant de faire l'insertion d'un stent.
Et ça permet quoi, du coup?
Et ben, ça permet d'éviter la mesure invasive de la pression.
Ah,
parce que normalement, on est obligé de la mesurer avec un cathéter. C'est un geste qui est risqué. Et là, voilà, donc grâce à l'aspect computationnel de cette imagerie, on peut éviter ça. Alors, pour passer de l'idée et du prototype à un produit, la start-up a été obligée de lever, je crois, $100 millions.
Oui,
donc, ça demande quand même de gros investissements.
Et juste pour terminer, avant de donner la parole à Thibaut, quels sont les lieux médicaux, enfin les lieux au sens abstrait du terme, où vous voyez ce triangle pouvoir se réunir? C'est-à-dire, par exemple, est-ce que Alzheimer, c'est en ce moment un endroit où on voit qu'on peut réunir des interindustriels, la médecine, etc. Et puis, je ne sais pas, j'imagine les pathologies cardiaques.
Et le cœur, absolument.
Ah, c'est les deux grands lieux.
Oui. En tout cas, nous, c'est ce qui nous occupe beaucoup. Là, parce qu'Alzheimer, c'est évident qu'il y a un enjeu de santé publique immense. Et puis, les maladies cardiovasculaires, c'est également le cas. Dans le premier cas, donc, les industries pharmaceutiques sont très intéressées à avoir des outils qui permettent de confirmer l'efficacité de tel ou tel médicament. Et là, je disais que l'informatique joue le rôle d'un véritable microscope, puisque ça permet de révéler des détails dans l'évolution de la forme du cerveau qui sont quasiment invisibles à l'œil nu. Et puis sur le cœur, donc, il y a cette idée d'essayer de prédire, par exemple, l'effet de la pose d'un stimulateur cardiaque pour resynchroniser le mouvement des ventricules. Actuellement, cette opération, dans 30% des cas, elle est sans bénéfice pour le patient.
Ouais.
alors que peut-être avec la simulation, on pourrait mieux prédire le bénéfice possible.
Je vais vous laisser dans les mains de Thibaut.
Attendez un instant, j'en ai pour une seconde. Il y a une question que je voudrais vous poser. Oh, c'est pas que ce soit très important.
Thibaut.
Il n'y en a pas beaucoup parce que vous avez quasiment répondu à tout déjà, mais concrètement, ça veut dire qu'aujourd'hui, dans un pays comme la France, une image médicale se donne aux médecins toujours avec un bouquet d'interprétations déjà proposé par un logiciel.
Pas dans tous les domaines, non. Pour le moment, il y a encore beaucoup de cas où ces interprétations sont encore des prototypes de recherche.
Je voulais aussi savoir les algorithmes que vous concevez, qui sont ensuite exécutés par des logiciels qui sont eux-mêmes implémentés dans des machines. Ils sont brevetés.
Les algorithmes ?
Oui.
C'est difficile de breveter les algorithmes. On arrive à en breveter un petit peu, mais c'est quelque chose de très difficile. Ouais. C'est quelque chose de difficile.
Pourquoi ?
Eh bien, parce que l'algorithme ne se prête pas trop bien au dépôt de brevets. On brevette plutôt des procédés, des dispositifs. Alors c'est comme ça qu'on arrive, en les raccrochant à des dispositifs ou à des procédés, à breveter, mais c'est un peu compliqué.
Et est-ce qu'il y a quelque chose qu'on aurait besoin de voir et qui reste caché aux yeux des robots médicaux ou à l'interprétation des médecins aujourd'hui, à l'heure actuelle ?
Certainement, oui, certainement. Mais comme c'est caché, je ne vois pas encore de quoi il s'agit.
Non, mais justement, pour prolonger la question de Thibaut, mais ça dans le même sens, est-ce que plus on voit, plus on s'aperçoit qu'il y a de l'invisible dans un corps ?
Oui. On se rend compte que plus on a de méthodes, finalement, et d'échelles auxquelles on peut observer, plus les choses sont compliquées.
Et le cerveau, aujourd'hui, qui notamment en 2014, je crois, fait l'objet d'efforts de recherche conséquents, notamment aux États-Unis. Est-ce que vous voyez à un moment des résultats de ces recherches qui pourraient servir en retour celles sur l'intelligence artificielle et donc renouer avec votre premier...
Ah, ce serait beau, ça.
Ça serait magnifique, oui.
Les bases de données dont vous parliez, elles sont nécessairement constituées en fonction d'une maladie ou il y a d'autres classifications ?
Alors, c'est souvent lié à un organe. Donc, il y en a sur le cerveau, il y en a sur le cœur. Et ça peut être lié à une maladie. Donc, par exemple, sur le cerveau, il y en a sur Alzheimer, mais il y en a aussi sur des patients jeunes.
Dernière question, Thibault.
Et l'organisation internationale de tous ces chercheurs en imagerie, il y a des lieux, il y a des...
Oui, alors on avait créé une conférence avec des collègues qui s'appelle Mikai et qui réunit maintenant chaque année plus d'un millier de personnes sur un continent différent chaque année.
Cette année.
Et avec beaucoup de jeunes. Alors cette année, c'est au MIT, à Boston. Ah, et il y a deux
évidemment.
Ans, c'était à Nice.
Eh bien, nous y serons.
Pas du tout, on n'y sera pas du tout. Merci beaucoup, merci Nicolas Ayache.
Merci
celles
de m'avoir
et ceux, je vous en prie, c'était un plaisir comme à chaque fois. Celles et ceux qui veulent en savoir plus pourront se rendre à vos cours du Collège de France qui commencent après les vacances de Pâques. Horaires et références sur la page de Place de la Toile, une page où vous pouvez aussi télécharger cette émission pendant un an et la réécouter pendant trois. La semaine prochaine, nous recevrons, c'est un autre genre, Pierre Bélanger, patron de Skyrock et très bon connaisseur des réseaux, qui vient de publier un plaidoyer pour la souveraineté numérique de notre pays. Nous en discuterons donc avec lui samedi prochain, 18h10, dans Place de la Toile. Place de la Toile, Thibaut Henton, Xavier Delaporte, stagiaire Marie Mougin. La technique, c'était Kevin Lebars. Réalisation, Vanessa Nadjar. Il est 19h sur France Culture. Tout de suite, Elisabeth Chungi et son magazine de musique sur écoute. Bonne soirée, bonne semaine.